Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour.
Picture me up on your knee, just tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone. To see us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. We'll break and I'll awake and start to bake a sugar cake for you to take for all the boys to see. A boy for you, a girl for me. Oh, can't you see how happy we would be?
L'éclat des cuivres, le swing syncopé de la batterie, une bavarde et malicieuse trompette bouchée, un piano légèrement désaccordé, mais c'est encore meilleur comme ça, et par-dessus tout, la voix si savoureuse d'Ella Fitzgerald. C'était un extrait de l'album Ella and Basie de 1963, dans lequel Count Basie et son orchestre accompagnent notre grande chanteuse sur de savoureux arrangements de Quincy Jones. Et pour la mélodie, vous aurez peut-être reconnu l'inusable Tea for Two de Vincent Schumann. Allez, je le sens, on va encore beaucoup boire dans notre preuve par Z de la semaine. Thé, café, champagne, vins et alcool en tout genre. Bienvenue au bistrot de France Inter. Alors pour cette quatrième et dernière émission de notre série consacrée aux boissons, figurez-vous que j'ai quelques regrets, quelques remords même. La gueule de bois peut-être et ses réveils difficiles quand on s'est un peu trop piché la calebasse, quand on s'est un peu trop torpillé le caisson, peinté la gueule, pris une caisse, pété la ruche. Enfin bref, quand on s'est mis grelot rond comme une queue de pelle, qu'on s'en est pris plein la trompette jusqu'à démeubler le dernier étage. Et puis aussi, chers auditeurs, des remords d'avoir dans les trois émissions précédentes oublié quelques trésors de la discothèque de Radio France. comme ce Tea for Two jazzy qui vient compléter avec bonheur les versions d'Art Tatum et de Shostakovich entendues deux samedis plus tôt. Alors pour nous remettre les idées en place, quoi de mieux qu'une grande tasse de café signée Tchaïkovski, exactement comme il nous la sert au second acte de son ballet Casse-Noisette, alors que Clara et son fiancé viennent tout juste d'arriver à Confiturenburg, prestigieuse principauté où règne la fameuse fée dragée et son mari le prince Orja. Un air de berceuse géorgienne, quelques effluves de clarinette épicées d'un cor anglais, un hautbois plaintif et la langueur doucereuse des violons en sourdine. Sous la direction de Valéry Gergiev et de son orchestre du théâtre Mariinsky, nous nous laissions bercer par le charme arabisant et langoureux de la danse du café du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski, une vision étrangement rêveuse d'une boisson ordinairement associée à ses effets toniques plus qu'à ses arômes. Mais au fait, le café, vous le préférez avec ou sans sucre? Et pour en adoucir le goût, un petit peu de lait? C'était Duke Ellington et son célèbre Big Band pour un savoureux café au lait, en français dans le titre s'il vous plaît, un extrait de l'album Such Sweet Thunder sorti en 1957 et coécrit avec Billy Strayhorn, mais en tant que piste bonus, sans lien particulier avec le reste de cet album par ailleurs consacré à Shakespeare. Alors un aimable auditeur me signale qu'il y a 15 jours, dans l'émission consacrée aux alcools, j'aurais tout de même pu penser à la Champagne Polka de Johann Strauss. Il a parfaitement raison, et c'est pourquoi je vous propose maintenant une version pleine d'esprit, où comme c'est la tradition à Vienne, certains coups de grosse caisse sont remplacés par un bruit de bouchon de champagne. Ricardo Muti faisait sauter les bouchons de champagne dans cette polka de Johann Strauss fils, et je précise le fils parce que vous savez peut-être qu'il y a deux Johann Strauss, le fils et le père, et en plus c'est pas facile de les distinguer puisque les deux ont passé leur vie à composer des valses, des marches et des polkas. La valse du Beau Danube Bleu, c'est le fils, la marche de Radetzky, c'est le père. Mais pour en revenir à notre polka du champagne, il s'agissait d'un extrait du concert du Nouvel An 2004 à Vienne, concert qui, soit dit en passant, est celui qui réalise chaque année la plus forte audience, toute musique confondue. Maintenant, comme on dit, n'oubliez pas que le champagne, en dépit de ses bulles, c'est d'abord du vin, à boire avec modération donc, vous risqueriez sinon de vous mettre dans le même état que la charmante Pericole d'Offenbach, une chanteuse de rue qui a tapé dans l'œil du vice-roi du Pérou, mais qui ne tient pas du tout l'alcool, comme elle nous le confie dans l'air que voici.
Thank you.
Mais chut, faut pas qu'on le dise. Nous demandait la Péricole, alors promis, on ne dira rien. C'était l'irrésistible Régine Crespin qui interprétait en titubant l'air de la Griserie de Jacques Offenbach, un extrait de la Péricole, opéra bouffe composé en 1868, et c'est Alain Lombard qui, à la tête de l'orchestre de la Suisse romande, tentait de l'aider à retrouver ses esprits et son chemin. Alors je viens de parler d'opéra bouffe, mais je vous rappelle qu'un opéra bouffe n'est pas un opéra dans lequel on mange, mais un ouvrage de style bouffe, c'est-à-dire bouffon, drôlatique, voire loufoque, ce qu'on nommera bientôt à Paris comme à Vienne, une opérette. C'est que notre Johann Strauss, le fils, a pu mesurer lors d'un voyage à Paris le succès des ouvrages d'Offenbach. Il décide alors d'écrire lui aussi des opérettes, dont la plus fameuse est incontestablement La Chauve-souris. L'histoire en est amusante, mais un peu alambiquée, j'essaie tout de même de vous la résumer. Cela commence par un certain Gabriel von Eisenstein, qui est condamné à 5 jours de prison parce qu'il a insulté un policier. Ce qui n'est pas bien, je vous l'accorde. Ce Gabriel a une femme, Rosalinde, qui a elle-même un soupirant, Alfred, qui pour mieux la convaincre de l'accompagner à une grande fête chez le prince, la fait boire, et bien sûr, boit lui aussi. Mais leur badinage est interrompu par le directeur de la prison, qui vient chercher Gabriel et prend l'amant pour le mari. C'est donc Alfred qui se fait embarquer pour la prison. Moralité, l'abus d'alcool est dangereux pour la liberté.
Trinke, Liebchen, trinke schnell, trinken macht die Augen hell, sind die schönen Äuglein klar, siehst du alles licht und wahr. Süß, wie heiße Liebe ein Traum, Rührungseffe zählt. Siehst, wie ewige treue Schaum, so was gibt's nicht mehr. Doch manche Illusion, die reiß dein Herz erfreut, gibt der Wein dir Tröstung schon, durch Vergessenheit. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, sing, trink mit mir, sing mit mir, la 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 la, sing, 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 trink mit mir, sing mit mir, sing, sing, sing. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht. Trinke schnell, trinken macht die Augen hell, mach doch nur kein bös Gesicht, sei gibt Schluss, ich grolle nicht. Brachst du einmal auf die Treu, das sei dir verziehen. Schwöre wieder mir aufs Neu und ich glaube es kühn. Macht uns Illusion, ist auch kurz die ganze Freud. Sei getrost, ich glaub dir schon und bin glücklich heut. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Glücklich ist, wer
évidemment, Rosalinde décide d'aller quand même chez le prince, où figurez-vous, elle va se faire courtiser par son propre mari. Mais comme il s'agit d'un bal costumé, celui-ci ne sait pas qu'il est en train de faire la cour à sa femme, encore un qui va être pris de remords. La fête bat donc son plein chez le prince Orlovski, c'est minuit, chacun lève sa coupe de champagne et trinque.
Der König aller Weine!
Jawohl!
jubel und champagne, größte Segnung.
Die Weine trinken alle Gott, alle Gott, wenn sie macht, jubel und champagne, die erste Gott.
Nous écoutions donc successivement deux extraits de La Chauve-souris de Johann Strauss, le trio du premier acte qui était chanté par Anton Dermota, l'amant, Hilde Guden, Rosalinde et Kurt Preger, le directeur de la prison, et l'orchestre philharmonique de Vienne placé sous la direction de Clemens Krauss. Et pour le chœur du champagne, j'avais choisi la version historique de Carlos Kleiber à la tête de l'orchestre de Bavière. Alors pour rester dans la fête, je vous propose maintenant un extrait du mariage de la grosse Katos, une mascarade de Philidor l'aîné représentée à la cour de Louis XIV à l'occasion du carnaval de 1688. Le mariage de la grosse Katos met en scène une noce de village et son traditionnel banquet où, comme vous allez pouvoir le constater par vous-même, on n'a pas bu que de l'eau. C'était l'air des ivrognes, un extrait du mariage de la grosse Katos de Philidor l'aîné par la bande de hautbois de la Symphonie du Marais du Goren. Alors maintenant, la grande question. Avez-vous l'alcool triste ou l'alcool gai? À moins que, comme Alain Leprest, vous ne vous serviez de l'alcool pour passer du premier au second état. Au fait, connaissez-vous Alain Leprest? Le Rimbaud de la chanson française, né en 1954 et mort en 2011. Celui dont Nougarou disait « Il est l'auteur le plus flamboyant que j'ai rencontré sous le ciel de la chanson française. Une voix unique, éraillée par la cigarette et l'alcool, au service d'une humanité à laquelle il est difficile de ne pas être sensible. »
Le temps de finir la bouteille, j'aurais rallumé un soleil, j'aurais réchauffé une étoile, j'aurais reprisé une voile. j'aurais arraché des bras maigres de leur destin mille enfants nègres. En moins de deux, j'aurais repeint en bleu le cœur de la putain. J'aurais enfanté mes parents, j'aurais peint l'avenir moins grand et fait la vieillesse moins vieille, le temps de finir la bouteille. Le temps de finir la bouteille, j'aurais touché la double paye, j'aurais acheté un cerf-volant pour mieux t'envoler mon enfant. Un lit doué, un abat-jour pour mieux l'éteindre mon amour. Dans une heure, un litre environ, j'aurai des lauriers sur le front. Je serai champion, j'aurai cassé la grande gueule du passé. Ce sera enfin demain la veille, le temps de finir la bouteille. Le temps de finir la bouteille. Et vendredi sera dimanche. J'aurai planté des îles neuves sur les vagues de la mer veuve. J'aurai dilué la lumière dans la perfusion de grand-mère. J'aurai agrandi la maison pour y loger tes illusions. J'aurais trouvé du pain qui rime avec des pièces d'un centime. Rire et pleurer, ça sera pareil, le temps de finir la bouteille. Le temps de finir la bouteille. Et si je peux, la poule essaye de voler plus haut qu'un gerfaut. Si ce que le vrai devient le faux, que j'abolis le noir, le blanc, la prochaine guerre et celle d'avant, les adjudants de syndicats, la soutane des avocats, les carrés bleus du tout Paris, le dernier né du dernier cri, la force, le sang et l'oseille. Le temps de tuer la bouteille. Le temps de tuer la bouteille.
Le temps de finir la bouteille, j'aurais rallumé un soleil, j'aurais réchauffé une étoile, j'aurais renfanté mes parents et fait la vieillesse moins vieille. Le temps de finir la bouteille, nous écoutions Alain Leprest, un extrait de son album « Donne-moi de mes nouvelles » et j'en profite pour remercier Dorian Sègre de m'avoir fait connaître ce poète inspiré. Alors de la solitude d'Alain Leprest, nous passons maintenant à la taverne peuplée des Carmina Burana, la célébrissime cantate pour soliste, chœur et orchestre, écrite en 1936 par le compositeur allemand Karl Orff. La patronne boit, le patron boit, le soldat boit, le prêtre boit, l'esclave et la servante boivent, l'évêque et le doyen aussi, l'enfant boit, le vieillard boit, le pauvre et le malade boivent, celui-ci boit, celle-là boit, 100 boivent, 1000 boivent.
Okay.
C'était le formidable crescendo vocal et orchestral d'In Taberna Quanto Sumus, en français Quand nous sommes à la taverne, l'un des plus fameux extraits des Carmina Burana de Karl Orff, une cantate scénique composée sur des textes en latin médiéval du XIIe siècle. Le compositeur avait en effet été enthousiasmé par la lecture de ses poèmes, séduit, je le cite, par leur rythme entraînant et leur caractère imagé, tout autant que par la musicalité riche en voyelles et la concision unique de la langue latine. Aussi, je vous propose maintenant, après l'exubérance orgiaque du cœur d'homme, d'écouter le baryton proclamé dans Estuans Interius, la supériorité de la chair sur l'esprit. Rongé intérieurement d'une violente colère, je parle amèrement à mon âme, avide de volupté plus que de salut.
Interius ira vehementi in la maritudine lo cor vehementi faccio se materia si di se ne venti si mi disso foreo e crudum venti non sereni proprio un vero sapienti sopra vetra volare se di fondamenti sculto sigo con parol fluve o lamenti sopra ore tramite non ma permanenti Chus est amabilis, dulci orbe de favis, quic vis venus interat. Labor est suavis, quenum quam in tardibus, habit ad ignavis. Martulus in anima curam gero otis.
Nous venons donc d'écouter successivement deux extraits des Carmina Burana de Karl Orff. Le premier, le chœur d'homme, dans la version dirigée par Eugène Jochum à la tête du chœur et orchestre de l'Opéra de Berlin, un enregistrement historique de 1967 et l'une des rares versions adoubées par le compositeur de son vivant. Pour le second extrait, j'ai été conquis par la vaillance du baryton Christian Gerhaher et l'orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Sir Simon Rattle. Nous passons maintenant au dernier volet de notre preuve par Z, un volet qui sera consacré au Bacchanal. C'est que vous avez été plusieurs à m'écrire pour me demander, après la diffusion il y a 15 jours de la Bacchanal du Tannhäuser de Wagner, si je pouvais également faire entendre d'autres Bacchanals célèbres de l'histoire de la musique. Bien volontiers, j'adore les Bacchanals. Et je commencerai par celle du Dioclésiane du compositeur anglais Henry Purcell, fin 17e. Dans ce semi-opéra, un genre typique du baroque anglais mêlant à égalité théâtre et opéra, cette bacchanale est organisée par une certaine Delphia, une prophétesse réputée. Dans un esprit de fête et de réconciliation, cette charmante et légère bacchanale fait se côtoyer avec grâce et pour notre plus grand plaisir, dieux, déesses, nymphes, faunes et héros. C'était somme toute une bacchanale assez gentille, aimable, presque champêtre, tirée de Dioclésiane, un semi-opéra écrit par Purcell en 1690 et elle était dirigée par Gottfried von der Goltz à la tête de l'orchestre baroque de Fribourg. Mais au panthéon des bacchanales, il faut bien sûr faire figurer celle du troisième acte de l'opéra biblique Samson et Dalila, composé par Camille Saint-Saëns en 1877. Nous sommes au début du troisième acte et Samson, aveugle, enchaîné, les cheveux coupés, est extrait de sa prison de Gaza pour être emmené à la cérémonie de triomphe des Philistins. Une bacchanale orientalisante dont les couleurs et les rythmes inspireront nombre de musiques de péplums hollywoodiens.
Thank you.
C'était la célèbre bacchanale de l'opéra Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns, interprétée par l'orchestre de l'Opéra de Paris sous la direction de Myung Won Chung. Mais si les scènes de bacchanale sont si nombreuses dans les opéras français, cela trouve sans doute son origine dans l'opéra Robert le Diable, un opéra écrit pour l'Opéra de Paris en 1831 par Giacomo Meyerbeer. Cette œuvre a en effet véritablement lancé le genre de ce qu'on appellera le grand opéra, qui mêle chœur, ballet, décors imposants, intrigues complexes et orchestres de grande envergure. Robert le Diable reprend l'intrigue d'une légende médiévale, dans laquelle Robert est le fils de Satan et d'une mortelle. Dans le troisième acte, le diable emmène Robert afin qu'il s'empare du rameau toujours vert qui pousse sur la tombe de Sainte Rosalie. S'il y parvient, tous ses désirs seront satisfaits, notamment celui de conquérir l'amour d'Isabella. À leur entrée dans la chapelle, le diable réveille les statues des nonnes qui entourent la tombe de Sainte Rosalie. Les nonnes deviennent alors bacchantes, ivres de volupté, poussant Robert à commettre le sacrilège qui le conduira en enfer.
Thank you.
Renato Palumbo dirigeait l'Orchestre international d'Italie dans la Bacchanale de Robert le Diable, un opéra de Meyerbeer composé à Paris en 1831. Le peintre Édouard Degas a d'ailleurs intégré cette scène de ballet dans le tableau intitulé « Le ballet de Robert le Diable », tableau dans lequel on aperçoit dans une étrange perspective les danseurs sur scène et les musiciens dans la fosse, comme si nous étions assis au premier rang de la salle. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Friconeau. Chef opérateur du son, Pierrick Charles. À la semaine prochaine.